France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Jean-Luc Delarue, le Janus de la télé. Le 23 août 2012, l'animateur est emporté par un cancer à l'âge de 48 ans. L'annonce de sa disparition crée une vive émotion. Car pendant 25 ans, Jean-Luc Delarue fut un acteur incontournable du petit écran. Un animateur-producteur richissime qui a cassé les codes et inventé des émissions où, pour la première fois, les anonymes étaient invités à prendre la parole. C'est la démocratie du moi-jeu, une tendance qui rend s'accentuant jusqu'à aujourd'hui. Mais derrière son apparence de genre idéal, Jean-Luc Delarue est un personnage complexe et intranquille. Un homme obsédé par sa notoriété et son argent. Excessif, pris au piège du star system, c'est un homme malade, dont les multiples scandales révèlent son addiction à la cocaïne, à l'alcool et aux médicaments. De bien des façons, Jean-Luc Delarue est le symbole de l'âge d'or de la télé des années 90, à la fois média tout-puissant, mais aussi instable et destructeur. Nos invités aujourd'hui, Isabelle Roberts et Raphaël Garrigos, journalistes, cofondateurs du Média en ligne Les Jours, ils ont tenu pendant 15 ans la rubrique Média du quotidien Libération. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Lisiane Larbani, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques heures aux urgences, on m'a retiré 4 litres d'eau dans le ventre. On s'est occupé de moi. Moi, je pensais rentrer directement à la maison le soir même. J'avais un tournage le surlendemain. Et j'ai compris qu'on me gardait. Et j'ai compris très vite, parce que les médecins étaient parfaits. Et les infirmières aussi, que j'avais un cancer. On m'a dit qu'il était important d'avoir des projets. On m'a dit qu'il était important de s'occuper. On m'a dit qu'il était important de vouloir vivre. On m'a dit qu'il était important d'être entouré. Et je vois plein de visages que j'aime beaucoup ici. Et ça me touche. Et je me dis un truc, c'est que il y a plus d'une minute à perdre. Et qu'on ne vit que deux fois. Merci.
Vendredi 2 décembre 2011, 7e étage des locaux de France Télévisions. Jean-Luc Delarue présente sa maladie. L'animateur de 47 ans est donc atteint de 2 cancers, estomac et péritoine. Et il a décidé d'en faire part à la presse. La conférence a été organisée à la hâte, car selon l'animateur, un paparazzo cherche depuis quelques jours à vendre son dossier médical à la rédaction la plus offrante. « Je suis un cancer comme les autres, ni plus ni moins », commente-t-il. Une annonce et des mots à l'image de la personne qui les prononce. Delarue fait du Delarue. Debout, micro à la main, et face à lui un parterre de journalistes décontenancés par cet étonnant procédé. Oui, voilà qu'il raconte ce diagnostic qui change radicalement sa vie. Un peu comme le ferait un témoin de son émission, toute une histoire. Il déroule. Ça fait un an qu'il est fatigué, qu'il souffre de douleurs au ventre. Ses cancers ont été diagnostiqués à des stades très avancés. Un long parcours de chimiothérapie l'attend. « Ma guérison est possible, elle est probable », espère Jean-Luc Delarue. Il ne peut pas savoir, hélas, que le temps lui est compté, 9 mois précisément. Mais face au cancer, il l'assure, plus que jamais il a retrouvé le goût du combat, le goût de vivre. Il est vrai que sa maladie intervient après une interminable descente aux enfers. Cela fait quelques années que la vie de l'animateur s'est effondrée, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Un an et demi avant cette conférence de presse, Jean-Luc Delarue a vraiment touché le fond.
On l'a appris ce matin, Jean-Luc Delarue a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Une interpellation qui aurait été réalisée après des écoutes téléphoniques. 7 autres personnes ont elles aussi été arrêtées dans le même dossier. On en saura plus dans les heures qui viennent.
Mardi 14 septembre 2010, 6h du matin. 5 policiers sonnent à la porte de Jean-Luc Delarue. L'animateur habite un vaste appartement de la rue Bonaparte, dans le 6e arrondissement de la capitale. Quand il ne s'y cloître pas pendant des jours, il reçoit régulièrement le tout Paris, qui vient admirer les nombreuses œuvres d'art qu'il a acquises, et faire la fête, jusqu'au petit matin. Face aux policiers venus le perquisitionner, Delarue est fatigué, presque penaud. Il indique où il a caché ses 16 grammes de cocaïne et les suit sans contester au commissariat. Il ignore en revanche que des photographes people sont en planque en bas de son immeuble. Les images de son arrestation font le tour de la presse et de la télé. Paris Match titre « Jean-Luc Delarue, le démon de la drogue ». Et les Français découvrent l'affaire. En réalité, cela fait des années que la star du petit écran est engluée dans cette spirale de la drogue. Une consommation dangereuse qui le consume à petit feu. 3 ans plus tôt, il avait déjà défrayé la chronique. Un cocktail d'alcool et de médicaments l'avait fait péter les plombs à bord d'un avion. Mais ce qu'on croyait être un événement isolé était en réalité l'illustration de la dérive de l'animateur. Delarue a lâché la rampe, mais en coulisses seulement. Car face caméra, l'homme de télé est toujours impeccable et continue de présenter toute une histoire diffusée en début d'après-midi sur France 2. D'ailleurs, scandale ou pas, Delarue compte bien la tourner, cette émission. Sa garde à vue à peine levée, il fonce en studio et s'adresse à son public.
J'ai essayé de parler sans réfléchir, de présenter mes excuses à tous ceux que j'ai pu offenser ou décevoir. Et en tout cas, je veux dire que je ne veux pas donner le mauvais exemple, qu'il y a des moments qui sont un peu plus durs que d'autres dans la vie. Que toutes les histoires que je reçois de mes invités, je les prends parfois un peu dans la poire. Et que, non. Parfois ça me protège, mais je suis conscient que c'est pas bien. Je suis conscient que c'est pas bien pour la société, je suis conscient que c'est pas bien pour moi-même non plus. Et donc je suis en traitement depuis quelques temps déjà. Donc là les choses arrivent dans le désordre, si j'ose dire. Mais en tout cas, je vous remercie de votre soutien. Je vais tout faire pour mériter votre confiance et je croirai en la deuxième chance si vous me la donnez. Merci.
Jean-Luc Delarue apparaît fébrile, comme sur un fil. Son masque de gendre idéal vient de tomber devant la France entière. Et il est plus que jamais sur la sellette. Rémi Pfimelin, le tout nouveau patron de France Télévisions, craint que le scandale éclabousse la réputation du groupe. Alors il le convoque et le suspend d'antenne. Après presque 25 ans de carrière, les jours de Jean-Luc Delarue à la télé sont comptés. Mais comment en est-il arrivé là? Depuis la chambre de la clinique suisse où il était hospitalisé, il refait le film de sa carrière. Lui qui pendant des années a tout donné à la télé, qui n'a pas compté ses heures, s'est fait dévorer, sacrifié sur l'autel de la notoriété et de la reconnaissance. Car il s'agit bien de cela, finalement, d'être connu, aimé. Dans cette course à la gloire, Jean-Luc Delarue a presque tout perdu. Et pour comprendre la violence de cette chute, il faut revenir sur la rapidité de son ascension. Jean-Luc Delarue débarque dans le milieu de la télé un peu par hasard en 1976. Il a 22 ans, un diplôme de publicité en poche, une bonne gueule et l'envie d'être remarqué. Ce qui est loin de plaire à ses parents, professeurs d'université. Chez les Delarue, on méprise la télé, qu'on allume seulement pour le grand échiquier de Jacques Chancel. Après un bref passage sur TV6 et aux Enfants du Rock sur Antenne 2, Delarue est repéré par Jean-Pierre Elkabbach. Le directeur des programmes d'Europe 1 lui confie l'animation du Top 50 et une chronique quotidienne sur le monde des médias. Au même moment, Delarue entre à Canal+. Il est intégré dans la grande famille, la quotidienne du midi de Michel Denisot, où il tient une chronique aux côtés de Jean-Pierre Coff, Philippe Vandel ou Mademoiselle Agnès. Et déjà, en coulisses, on compare Delarue à un Rastignac, un ambitieux, un homme froid, dur, lorsque les caméras sont éteintes. Un jeune loup, prêt à tout pour gravir les échelons.
Sylvie mesure 1m50 pour 50 kg, Julien 1m96 pour 110 kg et pourtant, ils s'aiment. Anne-Marie est plutôt sophistiquée et bavarde, Marc est plutôt amoureux de la montagne, des ours et du silence et pourtant, ils sont ensemble depuis 7 ans. Lucien affiche un petit 1m70, 80 kg, un peu plus. Véronique un bon 1m82 et 53 kg et pourtant, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. C'est peut-être cela le miracle de l'amour. Dans 2 minutes, ils nous raconteront la main dans la main, les yeux dans les yeux, comment leurs différences sont devenues le ciment de leur relation avec sur le plateau celui qui recherche une femme belle, grande et spirituelle. Pour former un couple dépareillé, Philippe Vandel.
50 kilos d'un côté, 100 de l'autre, la vérité est entre les deux probablement, mais on s'en fiche. Un an après son arrivée à Canal, Jean-Luc Delarue s'installe aux commandes de la grande famille. Il a 26 ans et c'est l'un des animateurs les plus en vogue de la télé. Face à la caméra, le jeune Jean-Luc est vu comme un beau garçon, rigolard, insolent mais jamais méchant. Il séduit dans les foyers et double les audiences de son prédécesseur en l'espace d'une saison. Car déjà, l'animateur apporte sur la télé un regard neuf, décalé, très inspiré par les talk-shows américains, notamment ceux d'Oprah Winfrey. L'animatrice superstar se démarque dans la façon qu'elle a de traiter tous ses invités comme des gens importants. Et peu importe qui ils sont, d'où ils viennent. En France, on n'a encore jamais rien vu de tel. Non, la télévision reçoit rarement monsieur et madame tout le monde. Et si elle le fait, c'est pour qu'il pose des questions, comme dans les dossiers de l'écran sur Antenne 2. Alors, Jean-Luc Delarue se met à convoquer sur son plateau de nombreux anonymes pour qu'ils viennent se raconter. Le public est friand de ce déballage d'intimité. Surtout que les sujets sont variés. On est invité pour parler travail, famille, passions et problèmes du quotidien. Au fil des émissions, les vrais gens, comme on dit, sortent de l'ombre. Ce sont des ouvriers, des gardiennes d'immeubles, des professeurs des écoles, des mères au foyer. On est bien loin des intellectuels et des politiques qui ont leur ronde serviette sur les plateaux, détenteurs du ministère de la parole. Cette télé-là se veut plus incarnée, plus proche des téléspectateurs. Jean-Luc Delarue a posé les premières pierres de ce qu'on a appelé la télévision testimoniale. Fort de ce succès, 2 ans plus tard, à la rentrée 92, il est l'événement de ce qu'on appelle dans le milieu le mercato. À 28 ans, il est choisi par Jean-Pierre Elkabbach pour animer à ses côtés la matinale d'Europe 1.
Bonne radio.
Jean-Luc Delarue.
Moi, j'ai préparé difficilement, beaucoup, parce que ça a été un petit peu une surprise quand Jean-Pierre Ozana m'a proposé de reprendre cette tranche du matin. Je savais déjà que j'avais des centres d'intérêt pour l'information ou toutes les informations, c'est-à-dire aussi bien les analyses d'Alain Duhamel, les interviews de quelqu'un que je ne citerai pas, ou encore, je ne sais pas, moi, les résultats de tel ou tel match de foot, ou le rythme de travail de Jodie Foster. Donc je savais que j'avais envie, mais en même temps, de là à se mettre à travailler pour une rédaction ou dans une rédaction que je connais, que je respecte et que j'écoute tous les matins, ça met un petit peu le trac. Ça m'empêche de dormir la nuit, ce qui tombe bien à sens, Jean-Pierre, puisque je me réveille à 4h30 le matin.
Elkabbach suit Delarue depuis ses débuts et il aime sa fraîcheur, son débit nerveux, son air charmant. Pour lui, il incarne la voix d'une nouvelle génération, à la fois impertinente mais bien élevée. Delarue n'en revient pas. Lui, le cancre à l'école, est flatté et fier que l'on considère autrement qu'un trublion du PAF. Aux manettes du 7-9, il demande la carte de presse. Il ne l'obtient pas. Mais il se console avec les chiffres des audiences. Il fidélise 250 000 nouveaux auditeurs en quelques mois. À la radio, dans la presse, on le dépeint comme un anxieux, un perfectionniste, un bourreau de travail. Il aime aussi vanter son hygiène de vie impeccable. Au lit à 22 heures, alcool, très rarement. Oui, enfin la vérité c'est que Jean-Luc Delarue fait énormément la fête. Il se retourne la tête dans les appartements haussmanniens et les clubs huppés de la capitale. Pour mener un tel rythme de vie, les médicaments l'aident à repousser le sommeil la journée et la nuit. Il marche à la coke, car son objectif est d'être partout. Delarue ne veut rien rater. Il veut qu'on le remarque, quoi qu'il en coûte. Il est de tous les plateaux, de toutes les émissions et de toutes les fêtes.
94 sera l'année de France Télévisions. C'est le vœu de Jean-Pierre Elkabbach, le nouveau président directeur général, qui a présenté ses vœux au personnel de France 2 et de France 3 et qui a adopté un ton résolument offensif.
Osons que chacun d'entre nous ose, allez, disons, au moins une fois par an. Osons et que chacun d'entre nous soit le porte-parole de ce combat pour France Télévisions.
Derrière ce slogan « Osons », Jean-Pierre Elkabbach a une ambition. Créer des nouveaux programmes de service public audacieux, impertinents, plus jeunes et enfin dépasser les audiences de TF1. Pour cela, il débauche des autres chaînes des animateurs très appréciés. Michel Drucker, Nagui, Arthur et Jean-Luc Delarue, donc. Louis Berriot et Patrick Clément, directeurs généraux de France Télé, voient en lui l'homme providentiel, déjà culte. Ils aiment son talent, son look, son attitude. Elkabbach, en revanche, et même s'il l'a découvert, méprise l'homme Delarue. Oui, il loue ses qualités d'animateur, mais il le trouve inculte, ignorant. D'ailleurs, pour son arrivée à France Télévisions, le journaliste demande à sa femme de constituer pour le jeune trentenaire une liste de romans et de livres d'histoire qu'il devra citer en interview. Ce cadeau empoisonné blesse profondément Jean-Luc Delarue, qui a pour Elkabbach une admiration et un attachement presque filial. mais il sait qu'il touche du doigt la popularité à laquelle il aspire. Ses conditions de recrutement sont pour l'époque démentielles, totalement inhabituelles de ce qui se fait dans le service public, qui a plutôt tendance à payer ses salariés au lance-pierre, sauf exception. Et là, on ne lésine pas. Jean-Luc Delarue obtient double salaire, à la fois de producteur et d'animateur, équivalent à 290 000 euros par mois. Il touche aussi une clause d'exclusivité fixée à 16 millions de francs par an, ainsi que des avances de l'entreprise à taux zéro pour produire ses futures émissions. Pour préparer sa rentrée, Jean-Luc Delarue a donc carte blanche, énormément d'argent et les 2 mois d'été. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Jean-Luc Delarue.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Madame, Monsieur. Bien, il semblerait que nous soyons en direct intégral. Madame, Monsieur, donc bonsoir et bienvenue sur France 2, ce qui est également valable pour moi. Cette émission est donc une première, la première de 16 Discutes, qui sera diffusée dorénavant chaque lundi et chaque mardi, en direct intégral, en deuxième partie de soirée sur France 2. 16 Discutes, comme son nom l'indique, met le doigt sur des sujets qui ont la particularité de faire réagir tout le monde. Donc nous espérons de vous faire réagir, en espérant, comme le chant de Francis Cabrel, d'ouvrir les portes des conversations.
La première de 16 Discutes est diffusée le 12 septembre 1994, juste après un entretien très suivi entre Jean-Pierre Elkabbach et le président Mitterrand. Le journaliste Elkabbach conclut même l'entretien par l'annonce de l'émission à venir. Et il dit « On lui souhaite bonne chance, ensemble. » Entendez, à Delarue, face à un Mitterrand stoïque, comme d'habitude. En tout cas, la séquence est surréaliste. À l'image de l'envie du patron de France Télé, « Osons », comme il dit. Oui, il y en a qui osent tout. Comme dirait Audiard. Comme il l'a fait à Canal+, Jean-Luc Delarue veut recevoir dans son émission les vrais gens, qu'ils racontent leur vie privée, leurs blessures, leurs particularités, qu'on rit et qu'on pleure dans les chaumières. Et en même temps, il convient à faire le show. Sans être du pur divertissement, cette émission de deuxième partie de soirée doit quand même secouer et accrocher les téléspectateurs. C'est ainsi que ça se discute et pensé. Une émission de témoignages qui alterne paroles en plateau et reportages sans commentaire. il faut pousser au maximum les portes de l'intimité des gens, les filmer chez eux, dans leur bain, dans leur lit. Quand on y pense, Ça se discute aurait pu porter le même slogan que celui d'une célèbre chaîne de fast-food, « Venez comme vous êtes ». Car ici, on veut que tout le monde se livre sans tabou. Delarue veut qu'on parle pour qu'on parle de son émission, et pour cela, il est prêt à tout. Il se moque totalement des convenances, des préjugés, des interdits, rien ne lui échappe. Quitte parfois à tomber dans les récits outranciers et les thèmes d'émissions tapageurs, comme « Abandon, séparation, peut-on oublier ses enfants »« Faut-il maigrir pour avoir le droit d'aimer ?»« L'avenir appartient-il aux garces ?» Ou encore « Sommes-nous tous menacés par la folie ?» Une sorte de mise en abîme d'ailleurs pour Delarue. C'est certainement cette envie de choquer qui permet à l'animateur d'aborder avec ses invités de nombreux impensés de la société. Delarue parle d'homosexualité, de handicap, d'inceste, de maltraitance, de travail du sexe, des troubles du comportement alimentaire, j'en passe. L'espace médiatique que propose « Ça se discute » permet une première forme de ce qu'on appelle aujourd'hui la libération de la parole et la mise en lumière des personnes invisibles. Un ancêtre des réseaux sociaux également. Et ça marche. « Ça se discute » s'impose comme l'une des émissions les plus vues de France Télévisions. Elle réunit pour chaque numéro 4 à 5 millions de téléspectateurs.
France Inter.
C'est un sacré pavé dans la mare de la télévision publique que vient de lancer Alain Griotret. Le député UDF de Charenton révèle en effet pour la première fois les contrats des stars du petit écran, les vedettes de France 2 et les chiffres d'affaires de leur société de production. Un chiffre faramineux de 640 millions de francs pour les 6 principales sociétés de production. Il ne s'agit pas de bénéfices, mais ces chiffres d'affaires font réfléchir, car les contrats étaient passés dans le plus grand secret. Dominique André vient de le joindre au téléphone, le rapporteur n'est pas tendre pour France 2.
Je trouvais que le phénomène en pleine croissance de dépenser 650 millions de francs de chiffre d'affaires pour les animateurs producteurs, alors que on dépense 600 millions pour la production et 50 millions pour les documentaires, ça me semblait ne pas être fatalement le rôle d'une télévision de service public.
Les révélations du député Alain Griotret, le 4 novembre 1995, créent la panique chez la direction de France Télévisions. D'autant que la Cour des comptes a décidé de mettre son nez dans la trésorerie. Delarue, pris dans ce scandale des animateurs producteurs, est convoqué FISA dans le bureau d'Alcabache. Il doit revoir à la baisse son salaire et les coûts de son émission. Hors de question, s'oppose-t-il. Dans son livre, Jean-Luc Delarue, la star qui ne s'aimait pas, Vincent Mellet raconte une scène surréaliste dans le bureau du patron de France Télé. L'un des conseillers d'Alcabache s'approche de l'animateur et pointe son majeur et son index sur sa tempe. « Si tu ne renégocies pas, lui dit-il, tu seras un homme mort, carbonisé. Ta carrière sera détruite. Tu n'es rien sans nous. » Ah bon ? C'est mal connaître Jean-Luc Delarue. Dans le milieu, on sait pourtant que c'est un nerveux, un autoritaire. Il ne se pliera pas aux exigences de son patron. L'affaire prend une toute autre tournure en avril 1996, lorsque la présidence de France Télévisions annonce avoir demandé au tribunal de commerce la désignation d'un expert pour évaluer le coût des émissions produites par Réservoir Prod, la société créée par Jean-Luc Delarue. Le lendemain, l'intéressé organise une conférence de presse et joue la carte de la transparence. Il apparaît en effet détendu, mug de café à la main. Il assume la teneur de son contrat, son revenu net, quasi 35 millions de francs par an, et les audiences de ses programmes. Et France Télévisions est déboutée par la justice. Jean-Luc Delarue conserve son contrat et échappe au scandale des animateurs-producteurs. Jean-Pierre Elkabbach, lui, discrédité pour son amateurisme, est poussé à la démission.
Sans transition, consommation, les banques rivalisaient fort pour attirer le client, regardez.
Banque fermée, en couverte. Avec ma banque, c'est pas compliqué. Et ça marche 24h sur 24, 7 jours sur 7, efficacité. Et en plus, compte chèque productif, découvert autorisé, et même conseil pour monter ma boîte. Rentabilité. Une banque comme la mienne, c'est des avantages en plus. Allô ?
France Télévisions, bonsoir, Jean-Pierre Elkabbach.
Salut JP, c'est Jean-Luc.
Bonsoir Jean-Luc, combien tu veux ?
Vous avez vu ? 2h du matin, il est encore là. Rien que pour moi. Disponibilité. Je vais prendre 20 patates, JP, je pars un week-end.
Service public France Télévisions, votre télévision vous doit des comptes.
Les guignols ont beau le dépeindre en golden boy et voleur de patates, la popularité de Jean-Luc Delarue auprès des téléspectateurs est intacte. Le public s'est attaché à lui au fil des saisons. On apprécie ses commentaires souvent drôles, ses gentilles moqueries, mais aussi son empathie et sa bienveillance. On le sent parfois bouleversé par certains de ses invités. Il fend l'armure et les téléspectateurs raffolent de ses séquences. En réalité, Jean-Luc Delarue connaît parfaitement l'histoire de ses invités. Pendant des heures, il a ingurgité les fiches rédigées par les journalistes de l'émission. Égard à celles et ceux qui produisent des documents incomplets ou qui ne vont pas dans le sens de ses méthodes. Hors antenne, l'animateur est étouffant, oppressant, paranoïaque, instable. Des collaborateurs de l'époque racontent. Si on n'était pas d'accord avec lui, on pouvait se retrouver dans une situation très violente. Il pouvait être très méchant. Il y avait une crainte d'aller dans son bureau. Oui, on y allait le nez au ventre en se demandant de quelle humeur il serait ce jour-là. Bref, attirant.
Écoutez bien, avec leurs doigts, ils s'essuient toujours sur la nappe du restaurant où ils laissent la porte des toilettes toujours ouverte. Alors, on va commencer par vous, Stéphanie, c'est ça ?
Oui.
En quoi vous êtes sans gêne ?
Mais en fait, je rôde, je pète, je fais mon nez, je me mets tout nu devant les gens, je rase les parties intimes de mon copain, il me rase, enfin voilà quoi.
Souvent outrancier, comme vous venez de l'entendre, voyeuriste, mais aussi d'une certaine façon divertissant, les programmes produits par Réservoir Prod braquent les projecteurs sur des gens de tous horizons. La patte de la rue est partout, et certaines de ces émissions deviennent des incontournables du petit écran. Par exemple, Vie ma vie, présenté par Laurence Ferrari sur TF1, programme dans lequel des gens totalement opposés plongent en immersion dans la vie de l'autre. Un ouvrier avec un bourgeois, un radin avec un dépensier, un délinquant avec un policier. Mais il y a aussi Star à domicile, présenté par Flavie Flamand, dont le titre est plus qu'explicite. Des stars vont chez leurs fans. Mais l'émission qui rencontre le plus de succès, c'est certainement C'est mon choix, présenté par Evelyne Thomas et diffusé sur France 3. On vient d'en entendre une archive, ça donne le ton. Pour certains politiques et commentateurs, C'est mon choix est l'exemple même de ce qu'on ne devrait pas diffuser sur les chaînes publiques. Et on ne compte plus les signalements au CSA, l'instance de régulation d'époque. Mais France 3 ne lâchera pas ce qui est un véritable carton d'audience. En quelques années, la société de Jean-Luc Delarue est devenue un empire. En 99, Réservoir Prod emploie 500 salariés et produit des centaines de programmes, aussi bien du témoignage que du sport ou des jeux télé, diffusés en France et à l'étranger. Delarue, seul actionnaire de son entreprise, est richissime et soigne son image de golden boy dans la presse. Sa vie privée se retrouve dans les magazines People, il s'affiche au bras de mannequins, ouvre deux restaurants. L'homme de télévision se sent intouchable. Pourtant, l'argent et le succès lui montent à la tête. Delarue a la folie des grandeurs et sa consommation quotidienne de drogue et d'alcool le détruit à petit feu. Il veut toujours plus. Sa vie à mille à l'heure, ce mélange de popularité, de drogue et d'argent le propulse droit dans le mur. Et le début des années 2000 va mettre fin à son épopée.
11 célibataires coupés du monde.
Philippe.
Laure.
Aziz.
Loana.
Jean-Édouard.
Julie.
Stevie.
Kimi.
Fabrice.
Kenza.
Et Christophe.
Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 7 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez.
En 2001, comme des millions de Français, Delarue découvre ahuri le Love Story. Ce qu'on appelle la télé-réalité de M6 fait des scores d'audience démentiels. Et tous les jeunes ont le nez collé au poste de télé devant ce programme où rien ou presque, en fait, n'est réalité, tout est scénarisé. Face à cela, les émissions de plateau à l'ancienne, celles que produisent Réservoir Prod, plaisent de moins en moins. On se lasse d'entendre les gens raconter leur vie et les audiences s'effritent. Mais que faire face au phénomène Loft ? Un cran au-dessus de tous les autres, côté voyeurisme. Les anonymes sont filmés et écoutés 24 heures sur 24. Jean-Luc Delarue déteste cette nouvelle télé. Cette fois, ce sera sans lui. De toute façon, de plus en plus souvent, ivre et défoncé, il n'arrive plus à réfléchir. Il se désinvestit de son travail, ne termine plus ses projets, se cloître chez lui. Cette descente aux enfers va durer des années. Silencieux, pour ne pas dire complice, le petit monde de la télé assiste au déclin de l'ancien petit prince. Finalement, en 2010, l'affaire de la perquisition et de la cocaïne retrouvée chez lui permet de mettre un vrai coup d'arrêt à son autodestruction. À sa sortie de cure de désintox, Jean-Luc Delarue choisit de se confier au journaliste Benoît Duquesne dans l'émission Complément d'enquête. Visage clair, voix détendue, il se confie durant une demi-heure sur ses addictions. Il revient sur cette garde à vue qu'il considère a posteriori avoir été sa planche de salut. Après cette interview confession, il se lance dans un tour de France en camping-car. Objectif, se rendre dans les lycées pour parler aux jeunes des dangers de la drogue.
La coke, ça représentait à peu près 20 grammes par semaine. Donc, pas 3 grammes par jour, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Je dormais plus, j'écrivais un bouquin, je voulais absolument le finir avant fin août. Et j'étais tombé dans un truc, je sais plus si je prenais de la cocaïne pour écrire un livre ou si j'écrivais un livre pour me donner des raisons de prendre de la cocaïne, parce que j'étais complètement tombé dedans. Et je savais plus comment m'en sortir. Je l'ai pris tout seul. Moi, j'ai beaucoup consommé tout seul, quasiment tout le temps tout seul. On dit que c'est une drogue festive. Pour moi, ça n'a jamais été une drogue festive. Ça a toujours été une drogue de solitaire. Une drogue que j'utilisais pour mettre mes émotions sous cloche, parce que sans doute que je contrôlais mal mes émotions. Surtout parce que je voulais les contrôler. Je pense qu'il ne faut pas les contrôler.
Après son tour de France, Jean-Luc Delarue revient sur France 2 avec une nouvelle émission, Réunion de famille. Un projet qui se fracasse sur le mur de la maladie. Après sa conférence de presse de décembre 2011, il disparaît de la vie publique. Entre les nombreuses séances de chimiothérapie, il organise sa succession et rédige son testament. En mai 2012, il épouse sa nouvelle compagne, Anissa, dans sa maison de Belle-Île-en-Mer. Un mariage en petit comité, durant lequel il apparaît le teint blafard, épuisé. Vincent Mellet raconte dans son livre. Il a conscience que ce mariage est davantage le prélude d'une mort prochaine que d'une longue vie à deux. D'ailleurs, l'animateur retourne à l'hôpital peu après. Le 23 août au petit matin, Delarue est dans sa chambre de l'hôpital américain de Neuilly. Allongé, il demande à son épouse de fermer les volets et d'éteindre la lumière. Il met ses boules quièces, s'endort et disparaît.
Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, le monde de la télévision est en deuil. Jean-Luc Delarue est mort des suites d'un cancer qu'il avait lui-même annoncé en décembre dernier.
L'animateur de télévision avait 48 ans. Il a succombé à un cancer de l'estomac et du péritoine. Jean-Luc Delarue, une carrière fulgurante à la télévision. Un argent monstre à l'époque des animateurs rois.
Voix de velours et débit mitraillette, belle gueule et excès de Golden Boy. Jean-Luc Delarue est mort la nuit dernière à l'hôpital américain de Neuilly.
C'est dommage, un bon journaliste, il aurait pu vivre plus longtemps. La maladie, ça emporte tout le monde, hein. Ça ne fait pas de cadeaux aux gens riches ou pauvres.
Je trouve que c'était des émissions super.
Et oui, là je suis attristée parce que c'est vrai qu'il était, bon, il était avenant, beaucoup d'humour. Bon, les femmes m'ont trouvé sexy, bien sûr.
C'est une personnalité connue du petit écran qui disparaît, c'est toujours triste.
Quelques jours après son décès, les proches de Jean-Luc Delarue sont conviés à une cérémonie funéraire au cimetière du Père-Lachaise. Tous ses amis du début sont absents. Ceux qui l'ont connu à Europe 1 et Canal+. Ils ne sont pas les seuls qui manquent à l'appel. Le corps de Jean-Luc Delarue n'est pas là. Stupéfait, les proches de l'animateur découvrent que, selon sa propre volonté, le défunt a déjà été inhumé au cimetière de Thiers. A-t-il décidé cela pour fuir les paparazzis ou pour être inhumé entouré de ses plus proches? Mais cette polémique de mauvais goût va vite être balayée par la bataille menée autour de son héritage. Deux camps vont s'écharper durant des années sur les biens de Jean-Luc Delarue. Son épouse Anissa d'un côté et sa famille de l'autre. Du Delarue sans Delarue.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Jean-Luc Delarue, dont nous parlons avec nos invités. Isabelle Roberts, bonjour.
Bonjour.
Et Raphaël Garrigos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux journalistes cofondateurs du média en ligne Les Jours, dont nous dirons un mot à la fin de cette interview. Mais vous avez, pendant 15 ans, tenu la rubrique média du quotidien Libération. Je dis mais parce que ça nous raccroche au sujet d'aujourd'hui. Raphaël Garrigos, nous avons évoqué au début du récit cette conférence de presse durant laquelle Jean-Luc Delarue a annoncé être atteint de deux cancers. Alors vous y étiez tous les deux pour Libération, racontez-nous.
C'était très surprenant, c'est une conférence de presse décidée toute à traque sans qu'on ne connaisse le contenu ni l'objet. Je ne sais pas pourquoi on décide d'y aller, c'était très loin de Libération en plus à l'époque, mais bon, c'est un vendredi après-midi et on y va comme ça sans savoir à quoi s'attendre. Et donc là, apparaît au bout d'un moment Jean-Luc Delarue s'appuyant sur un tabouret, effectivement livide, et présentant cette conférence de presse comme une de ses émissions, puisqu'il dit « voilà mon histoire ». Pour ouvrir cette conférence de presse où donc il annonce son cancer. Et instantanément, tous les attachés de presse qui sont là, les membres de la direction de France Télévisions qui sont là aussi, les journalistes, tout le monde fond en larmes. Moi j'ai été très très décontenancé.
C'était pas malaisant pour vous
ça? Ah si, c'était très malaisant. Moi je suis sorti furieux de, je vous avoue, de cette séance-là. Maintenant il y a prescription, mais. Et je me souviens d'un truc tout bête où il vient nous voir à la fin de Jean-Luc Delarue, avec qui on avait déjà parlé, vient nous voir en disant « Bon, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais même si vous n'êtes pas très gentil avec moi. » Et j'ai juste trouvé à lui dire bon courage. Et vraiment, on avait cette mise en scène de Jean-Luc Delarue, comme vous le disiez, qui mettait en scène sa propre maladie, comme il l'avait fait avec ses téléspectateurs.
On a retrouvé quelques articles que vous avez écrits sur Jean-Luc Delarue dans Libé, notamment au début des années 2000. Vous n'étiez pas tendre avec lui, hein, Isabelle Roberts. Hein. Vous l'avez qualifié de « dealer de pleurnicherie ».
Oui, il aurait dû le mettre sur son CV peut-être. En fait, oui, c'était ça, Jean-Luc Delarue. Nous, quand on arrive à Libération, on est au début des années 2000, Jean-Luc Delarue a déjà 6 ans de « ça se discute dans les pattes », en fait. Il fait partie du paysage et ce qu'il a fait, c'est, vous le disiez dans votre récit, c'est qu'il a... En fait, il a apporté Oprah Winfrey à la télé française.
Ouais, c'est ça.
Voilà. C'est-à-dire qu'il a fait de l'humain, des témoignages, le carburant de ses émissions. De manière outrancière parfois et surtout répétitive. Je me rappelle, il y avait une blague à l'époque qui disait « Si vous êtes homosexuel, appelez Jean-Luc Delarue. » Quoi. Enfin, c'est, si vous cachez votre homosexualité, appelez Jean-Luc Delarue. Il avait par exemple une fascination pour les tocs. Il y a eu je ne sais combien d'émissions sur les tocs. Il a sans doute popularisé le syndrome de la Tourette. Mais les véritables malades de la Tourette savent que en fait, ceux qui disent des grossièretés, ça représente seulement 30% du syndrome.
Bien sûr. Mais c'est comme quand il invite quelqu'un qui fait 50 kilos et un autre 100 kilos, on est dans la caricature parce que la vérité, le réel, c'est entre les deux, quoi.
Bah, le réel, c'est, ça fait pas un bon produit de télévision. Ça fait pas un bon produit de télévision, donc il faut des choses qui fassent du clash, qui fassent des histoires, et ce qui est important aussi, c'est son rôle à lui. Parce que Jean-Luc Delarue était fasciné par Quentin Tarantino, d'ailleurs le nom de sa boîte de production
Reservoir Dogs, en fait.
Voilà,
hein.
C'est ça. C'est
le film de Tarantino.
Une espèce de cinéma global où il maîtrise tout, et lui, il fait ça à la télé, en réalité. Il est à la fois le metteur en scène, l'acteur, il joue de son corps, de ses émotions, de son empathie, peut-être qu'il surjoue, et tout ça est totalement faux. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et ça apporte quelque chose de nouveau.
Ouais. Raphaël Garrigos, est-ce que vous pensez que ça a annoncé, mais sans savoir, bien sûr, des émissions comme celle de Cyril Hanouna, aujourd'hui, par exemple?
Disons que le parallèle avec Cyril Hanouna est assez évident avec l'homme d'affaires, les hommes d'affaires dans la coulisse impitoyable. Après, Jean-Luc Delarue a un peu annoncé aussi la télé-réalité. Quand Love Story arrive, finalement, on passe un nouveau cap dans la mise en avant des anonymes. Et oui, cette espèce de gars doté d'un pouvoir immense Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on le voit beaucoup plus avec Cyril Hanouna, puisqu'il lui en fait étalage en permanence à l'antenne. La grosse différence, après, est idéologique. Jean-Luc Delarue ne s'est jamais penché sur ce genre de choses-là. Il était plutôt, j'allais dire woke, mais on va dire progressiste.
Jean-Luc Delarue a travaillé ce personnage lisse, ce qui est l'inverse de Cyril Hanouna, en réalité. Et puis, Cyril Hanouna, il ne joue pas tellement des témoignages d'anonymes. Il l'a fait à une époque avec les Gilets jaunes, mais surtout, il est dans la mise en scène de sa propre personne et de sa propre bande.
Jean-Luc Delarue entretient, alors, pour le coup, puisqu'on parle de l'affaire des animateurs producteurs, on parle donc aussi de l'affaire El Kabbach, on dit que tous les deux avaient comme un lien père-fils. Qu'est-ce qu'on sait de leur relation, Raphaël Garrigos?
Jean-Pierre El Kabbach l'a pris sous son aile, et semble-t-il, au départ, c'était... Enfin, moi, j'aurais pas aimé avoir été le père de l'un ou le fils de l'autre, personnellement, vu la relation qu'ils entretenaient. Puisque donc, Jean-Pierre El Kabbach commence par le mettre sur un piédestal et lui mettre le pied à l'étrier, et il finira, après la mort de Jean-Luc Delarue, en disant que c'était un garçon qui n'avait pas assez de culture. Ce qui est quand même d'une méchanceté.
Très élégant.
Et d'une gratuité dont Jean-Pierre El Kabbach savait faire preuve. Mais oui, c'est un mentor et son poulain. Et puis au bout d'un moment, le poulain bouffe le mentor. Grand classique de la mythologie grecque.
Oui, et puis bon, c'est de la psychologie un peu de comptoir. Mais après, il y a des livres comme celui de Vincent Mellet qui raconte ça très bien. Jean-Luc Delarue avait des gros, gros problèmes avec ses parents. Donc Jean-Pierre El Kabbach, c'est un peu son père spirituel, mais il va tuer le père, littéralement, puisque c'est lui qui gagne dans l'affaire des animateurs producteurs. Jean-Pierre El Kabbach est viré, et lui, il reste.
Vincent Mellet qui travaille avec nous.
Absolument.
On le salue. Et les relations de Jean-Luc Delarue, alors avec ses confrères, avec le reste du monde de la télé, qu'est-ce qu'on sait?
Ça, c'est un peu un mystère. Quand il venait aux conférences de presse de rentrée, par exemple, de France Télévisions, et il ne venait pas toujours, il était seul. Totalement seul. Mmh. Un peu à l'écart, comme un observateur. Je pense qu'il a eu des relations très, très conflictuelles avec beaucoup de ses confrères. Je crois qu'il était assez ami avec Christophe de Chavannes, mais c'est à peu près la seule relation d'amitié qu'on lui connaisse. Mmh. Je suis pas sûre qu'il avait des amis, il avait des collaborateurs, quoi.
Ouais. Et alors, c'est l'époque de TF1 archi-dominatrice, hein, avec des programmes qui demandaient d'avoir une part de cerveau disponible pour la pub. Et c'est vrai qu'on aurait bien vu Delarue chez TF1, finalement.
Il a produit des émissions pour TF1, notamment une télé-réalité qui était totalement ratée. Parce que, malgré tout, Jean-Luc Delarue, quand il a vu arriver la télé-réalité qui lui a fichu un énorme coup de vieux...
Hein, oui, on va en reparler après. Oui.
Il a voulu s'en saisir. Et il a fait des tentatives, notamment une émission qui s'appelait Cours Florent pour Canal+, qui était une espèce de télé-réalité dans le Cours Florent.
Pour les jeunes comédiens. Hein.
C'est ça. Mais alors, toutes ces tentatives de télé-réalité se sont cassées la figure, lamentablement.
Qu'est-ce que ça dit, Raphaël Garrigos, de la télé publique de l'époque? Aujourd'hui, la télé publique, comme la radio publique, souffre de problèmes budgétaires. Là, on ne voit pas de problème budgétaire. Au contraire, l'argent coule à flot.
Disons qu'on est aussi dans une époque où on se dit, mais pourquoi est-ce que le divertissement dont TF1 a fait ses plus gros succès, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas aussi sur France Télévisions? Pourquoi est-ce que France Télévisions ne serait pas moderne? Et c'est ainsi que Jean-Pierre El Kabbach donc fait éclore Jean-Luc Delarue, mais aussi Arthur. Hein, Arthur qui partira sur TF1 ensuite avec des concepts qu'il avait fait sur le service public, les enfants de la télé, et fait fortune ensuite avec ça.
France Inter. Affaires sensibles.
Alors, un mot sur la fameuse télé-réalité. Le Loft, hein, évidemment, qui était un vrai phénomène. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, et même s'il n'aimait pas l'émission, Delarue a ouvert la porte vers ce genre de programme, Raphaël Garrigos?
Oui, je pense qu'il l'a ouverte, effectivement, en mettant les anonymes en avant, et la télé-réalité, donc c'était ça, d'avoir les anonymes encore plus en majesté. Je me souviens, au moment de Love Story, il y avait des études qui avaient été faites sur le fait que les jeunes, parce que c'était le grand succès de la télé-réalité de Love Story, c'était de remettre les jeunes devant la télévision, les jeunes regardent peu la télévision.
Et comment ça ne plus faire avant l'avènement? Mais est-ce qu'on est concomitant de l'avènement du numérique? À peu près, hein?
Oui, et pas encore les réseaux sociaux, par exemple, mais oui. La toute première télé-réalité, c'était quelque chose qui se passait par webcam, avant même Story, un an avant, ça s'appelait Aventure sur le net, je crois. Et là, les jeunes se remettent à regarder la télévision, et je me souviens d'avoir assisté à une étude comme ça sur Love Story, où en fait les jeunes détestaient qu'il y ait un intermédiaire entre eux et les candidats de télé-réalité, à savoir l'animateur.
Ouais.
C'est-à-dire que quand Benjamin Castaldi était à l'antenne, il n'aimait pas, il voulait avoir directement le rapport direct avec les candidats. Et Jean-Luc Delarue, lui, il fallait toujours qu'il soit dans le plan. Ce qui était un peu compliqué.
Ça collait pas. Quel est maintenant, à partir de tout ce qu'on a dit sur cette télé de service public des années 90, votre regard sur la télé publique d'aujourd'hui ?
La télé publique d'aujourd'hui, je dirais quand même qu'elle est bien meilleure, notamment avec des émissions d'investigation comme Complément d'enquête ou Cache d'investigation.
Ou Affaires sensibles dimanche sur France 2.
Absolument.
Hein. Je n'ai jamais une occasion, désolé.
Voilà, je pense qu'elle a fait un grand pas vers les émissions de qualité, mais notamment en utilisant le journalisme et pas l'animation façon Jean-Luc Delarue, même si c'est un de ses grands complexes parmi tant d'autres de n'avoir jamais eu sa carte de presse.
Et c'est là qu'on s'est dit que les problèmes budgétaires sont encore plus rageants, parce qu'on a une meilleure télé et moins d'argent. Bon.
C'est vrai.
On va parler des jours, votre média en ligne, les jours. Allez, dites-moi... Donnez-nous envie de vous lire, hein. Raphaël Garrigos.
Disons que les jours, c'est un média d'investigation uniquement en ligne et qui choisit pour mode d'expression la série. C'est-à-dire que nous, on prend un sujet dans l'actualité, parce qu'on aime l'actualité, on aime la raconter, tenter de la décrypter, et on ne le lâche plus. Et ce qui fait que depuis la naissance des jours en 2016, par exemple, on a lancé une série sur la conquête médiatique de Vincent Bolloré, et on en est à 233 épisodes consacrés à cette conquête-là.
Ça s'appelle le droit de suite. Hein,
c'est et ça, la série fait. S'appelle L'Empire. C'est le droit de suite, effectivement, qui est un grand reproche fait aux journalistes de papillonner de sujet en sujet et de les abandonner. Mais effectivement, nous, on est sur l'investigation en série et on appuie à chaque fois sur des sujets généralistes qui nous intéressent, que ce soit le RN, que ce soit des enfants volés en Syrie actuellement.
Vous lâchez pas l'affaire.
On lâche pas l'affaire.
C'est bien.
C'est vraiment
bien.
L'idée.
On lâche jamais l'affaire et surtout, c'est important surtout en ce moment, de dire qu'on est un média indépendant. C'est-à-dire qu'on ne vit que par
les abonnements.
Pour nos abonnés. Voilà. Et sans pub.
D'accord. Donc ça s'appelle Les Jours. J'invite les auditrices et auditeurs à y aller faire un tour. Oh, ça rime. Merci en tout cas.
Merci,
au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Jean-Luc Delarue, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Théo Delobadère.